Cubanizate est une association rennaise qui propose des cours de danse latine bercés dans une ambiance rythmée et conviviale. Orchestrée par une équipe de bénévoles motivés et passionnés, Cubanizate organise également stages, soirées, voyages et festivals. Alternant FM vous invite à découvrir Vanée, danseuse, professeure de danse de salsa cubaine et créatrice de l'association, ainsi que Lou, présidente de Cubanizate. Alors en direct de Rennes, au bar-restaurant Les Origines, nous avons la chance ce soir sur les ondes d'Alternant FM de recevoir Lou et Vanée de l'association Cubanizate. Bonsoir à vous, mesdames. On va parler un petit peu de l'association, de vos parcours, pour présenter un petit peu à nos auditrices et à nos auditeurs tout le travail associatif qu'on peut faire sur Rennes. Voilà, Vanée, je te laisse introduire.
Donc moi c'est Vanessa, plus connue comme Vanée. Je suis chilienne, je suis venue il y a 12 ans ici en France à la base pour un échange bilatéral d'université. Moi j'étais venue pour faire des études mais j'étais danseuse déjà au Chili. J'ai une carrière derrière de danse folklorique et latino-américaine. Et puis quand j'ai décidé de venir c'était pour une bourse, donc j'avais gagné une bourse, j'avais présenté un projet, je l'avais gagné et normalement je devais rester qu'une seule année ici en France. Quand on était à l'aéroport, ma mère elle chialait, elle me disait tu vas pas du tout revenir. Elle était persuadée de ce qui allait se passer. Elle avait raison parce que en fait ça fait 12 ans que je suis ici. Effectivement après je suis retournée au Chili plein de fois, mais pas pour reprendre ma vie, parce que ma vie je l'ai faite ici. Au hasard, j'ai décidé du coup de rester, de encore insister sur cette histoire de on n'a pas la possibilité de se payer un bon billet ou un séjour en France si facilement parce que au Chili c'est difficile. Et donc je me suis dit je vais insister, je vais rester. Et tout en étant ici, en faisant mes études, petit à petit, il y a des personnes qui m'ont proposé rapidement d'intégrer des cours en tant qu'assistante. Et en tant qu'assistante, je suis devenue rapidement aussi professeure. J'ai commencé à enseigner dans pas mal d'endroits, dans pas mal de contextes, avec des publics super, super différents, tout en ayant de boulot à côté, parce que à la base, voilà, je savais pas trop si j'allais rester, donc c'était pas mon boulot principal, et je m'étais pas décidée de le faire à 100% comme je faisais au Chili. Et puis, ici, en France, ça s'est développé hyper vite, aussi par le fait jouer un peu la carte de l'exotisme qui voilà c'était le truc le plus évident dans moi. La chilienne, elle est une vraie latino, elle a une véritable rélevance dans ce qu'elle fait, du coup je jouais un peu cette carte là qui a vachement marché. Et puis petit à petit je commençais à devenir un peu connue localement et jusqu'à trouver un petit groupe des personnes bienveillantes qui m'ont dit écoute, on aimerait envie de soutenir plus ton projet, on aimerait envie de créer un projet qui porte plus l'empreinte de ce que tu es. Et du coup j'ai dit vas-y on y va, et c'est là qu'on a créé l'association Cubanizate. Cette association du coup qui veut dire cubanise-toi ou deviens cubain est devenue un peu mon centre d'opération, ma famille aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis le tout début et qui sont toujours là avec moi et qui soutiennent toujours mon projet que j'aime et auquel je tiens énormément. Je pense que vice-versa. Et à partir de cette association, on a commencé à faire beaucoup, beaucoup d'activités. Ces activités-là, elles ont commencé à faire parler de qu'est-ce que c'était Cubanizate et qui était Vanée Noma, qui était un peu partout, cette petite chilienne qui s'était fait une petite réputation quand même de façon locale. Et de par l'association, a commencé à se faire un nom aussi à l'étranger, parce que avec cette association, on a fait venir des personnes de un peu partout, local mais aussi internationaux, et vice versa les associations ont joué le jeu et m'ont fait venir aussi dans leur asso qui était dans d'autres régions ou aussi à l'international. Et donc c'est ça que je peux raconter par rapport à l'association. Aujourd'hui on y est encore, c'est une association de environ 200 élèves on va dire avant Covid, et aujourd'hui qui a perdu un petit peu parce que ça a été encore un impacté comme je pense la plupart d'associations ou la plupart des structures qui jouent un peu le loisir ou le public, le contact, tout ça. Et mais du coup, on y tient le coup et on est toujours là, vivant et motivé. Voilà.
Donc, quand t'es arrivé, Vanée, toi, c'était dans le cadre d'un échange bilatéral entre universités, notamment sciences politiques. Donc en fait, quand t'es arrivé en France, tu te voyais pas en fait forcément enseigner la danse, ou c'était quelque chose que tu avais déjà en toi, ou alors t'es vraiment arrivé dans une logique vraiment professionnelle de développer autre chose. Dans quel état d'esprit, par rapport à la fois à tes études de sciences politiques, quelle relation t'avais par rapport à ça en arrivant ici et à la danse?
Quand je suis venue ici, c'était vraiment pour faire cet échange qui durait environ un an. Et ça faisait partie de ma filière, parce qu'après, je devais faire un compte rendu de ce que j'avais vécu ici et monter encore à la fois un projet de tout ce que j'avais vécu ici. Mais même ma filière là-bas en France, c'était quelque chose que j'avais fait pour faire plaisir à ma famille qui avait peur que je sois une artiste. Parce qu'au Chili, être artiste, ça a beaucoup de connotations. Notamment, c'est le véhicule d'expression du communisme, on va dire ça comme ça. Et donc, vite, si tu fais de l'art, tu peux être considéré comme un communiste, comme un opposant, tu vois, de tout ce que a été la dictature, tout ça. Donc, pour faire plaisir à ma mère, j'ai fait des études dans d'autres choses sur lesquelles c'était facile pour moi, qui étaient les langues, le contact, les relations humaines, tout ça. Donc, ma filière, en soi, c'était l'ethnotourisme. Mais c'est ce qui m'a permis d'une certaine façon de venir en France, parce que comme il fallait apprendre des langues, pratiquer le français, tout ça, cette filière, elle proposait dans la cinquième année cette bourse-là, et c'est cette bourse-là qui m'a permis de venir en France. Mais dans ma tête, moi, j'ai jamais arrêté de danser. À la base, j'ai un cursus de danse folklorique et latino-américaine. Donc quand je suis venue ici, je me suis dit, je vais faire mon année de bilatéral, d'échange, mais rien n'empêche que je puisse quand même continuer la danse. Et c'est ce que j'ai fait aussi pendant toutes les années au Chili. J'ai jamais arrêté de danser. J'étais toujours en train de travailler pour des compagnies. J'avais déjà enseigné les danses folkloriques. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée ici, tout est arrivé un peu par hasard ou pas. Parce que finalement, je pense qu'on a des fois... tout est écrit, en fait, dans ce qu'on est. Et puis, c'était moi. La danse, elle était à moi depuis toute petite. Et même si on m'a fait faire d'autres choses pour faire plaisir, tu vois, pour entrer un peu dans le cadre social sur lequel ils vont rentrer dans un pays difficile, du coup, finalement, mon envie, ma passion, elle était plus forte. Et petit à petit, et par hasard, j'ai commencé à ouvrir ce chemin qui a toujours été en moi, la danse, qui pour moi est vraiment une forme de communication réelle et vraiment ma passion première, et que je me dis cool, j'ai réussi à la développer en France, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'est joué par la carte de l'exotisme, tout ça, mais j'ai profité, je me suis dit en fait j'ai une place dans la danse, et peut-être au Chili c'était plus difficile à développer, mais peut-être ici il percevait de la carte exotique, la latino, tout ça, et toutes les possibilités aussi qu'il y a en France, parce qu'ici il y a des millions de possibilités qu'au Chili on n'en a pas, et j'ai joué à 100%. Et puis voilà, maintenant on commémore ça, on remémore, pardon, plutôt, avec ma famille, parce que tout le monde m'avait vu prendre une autre voie, mais je n'ai jamais arrêté de danser, je n'ai jamais arrêté ma passion première qui était la danse et que je défends à fond encore aujourd'hui.
Tu peux peut-être nous parler de ta rencontre avec un professeur de danse cubain, peut-être qui t'a permis d'avoir aussi un déclic par rapport à cette danse, cette salsa cubaine?
Oui, ça c'est vraiment super, super important. Parce que quand je suis venue ici, je disais que j'avais aussi d'autres boulots à côté. Et au début, quand je suis arrivée, je ne savais pas trop quoi faire ici en France. Il existe plusieurs façons de vivre autour de la danse, ce qui est déjà assez avantageux par rapport au Chili. T'as l'intermittence, t'as l'auto-entrepreneur, t'as à partir des associations, t'as l'animation, enfin t'as plusieurs façons de faire. Mais quand t'arrives en France et que tu sais pas parler la langue, t'es pas complètement intégrée, bah, tu es déjà un peu larguée par rapport à ton statut à toi. Alors, te trouver une place dans tout ça, c'est difficile tout de suite au début. Donc, on va dire que j'ai tout fait et qu'encore, j'ai fait plusieurs, ou je joue plusieurs cartes. Donc, quand je suis arrivée ici, il y avait beaucoup de gens qui me décourageaient un petit peu, me disaient l'intermittent, c'est difficile d'avoir. Donc, il faut que tu fasses autre chose, que tu te formes peut-être. Donc, j'ai commencé à faire effectivement ça, les formations d'abord. Et à partir des formations et à partir du cadre associatif qui aujourd'hui joue un rôle essentiel en France, parce que ça crée quand même beaucoup de travail et qui fait un parallèle par rapport à ce que l'État peut proposer. Et ben, j'ai trouvé ma place, on va dire, par là. Et donc, je commençais à me former. Et en cherchant ces formations-là, j'ai retrouvé un Cubain qui, pour moi, est mon mentor et le gourou de tout ce qui a suivi après, par la suite, dans ma carrière. C'est lui qui m'a vachement encouragé parce que lui, en fait, Jorge Camahue, c'est un Cubain qui est venu s'installer en Espagne et qui a un parcours similaire au mien. On va dire qu'il était danseur, mais il s'est fait vraiment de façon autodidacte à partir de ses expériences. Il n'avait pas eu la possibilité de faire des études académiques en danse, mais il n'a jamais arrêté de faire de la danse. Et donc c'est quelqu'un qui, moi, m'a beaucoup transporté, m'a beaucoup aussi dit, en fait, t'es pas toute seule dans ce milieu qui commence comme ça, un peu à l'arrache, ou qui se forme dans la rue, ou qui se forme à partir de plein d'influences. Le tout, c'est de pouvoir se le dire et de faire une force de tout ça. Et donc, lui, il parle beaucoup, hein, c'est quelqu'un qui parle énormément. Et soit tu l'aimes, tu l'aimes pas. Mais ici à Rennes, on est plusieurs professeurs à avoir accroché à sa façon, qui est assez... ça part beaucoup de ce qu'on est déjà en tant qu'être humain et ce qui t'est fait avoir une force unique pour pouvoir continuer t'accrocher à ta passion. Et donc ça m'a beaucoup parlé et Jorge, il m'a formé beaucoup. Après, je l'ai... En fait, il y avait la possibilité au début de l'avoir ici sur Rennes parce qu'il y avait une association qui faisait venir pour des masterclass. Après, j'ai suivi un peu sa trace, où est-ce qu'il donnait des cours, où est-ce qu'il était. Donc, je l'ai un peu suivi dans des villes jusqu'à arriver à Barcelone. Et après, c'est moi qui l'a fait venir aussi, qui a organisé un festival, mon premier festival d'ailleurs, ici à Rennes, où lui, il était l'invité par excellence. Et où ça nous faisait plaisir de le recevoir parce que c'était aussi notre gourou à nous. On était plusieurs professeurs à avoir suivi un peu sa pédagogie. Et donc, après ça... c'était facile, en fait. T'as déjà accroché. Une fois que t'accroches à quelque chose, et tu commences c'est un déclic qui est en toi et tu commences à chercher partout qu'est-ce que tu peux faire de plus, comment tu peux te former. Donc moi, je suis allée beaucoup des fois en Espagne, ce qui m'a fait rencontrer aussi beaucoup de mes amis danseurs que par la suite je fais venir ici et vice versa. Donc ça résume un tout petit peu le fort et le début de mon histoire avec la danse et on va dire plutôt pas avec la danse mais avec la réputation que je me suis faite, parce que en faisant ces liens déjà entre pays et beaucoup à travers la passion et à travers l'amitié, et en fait, vite, les gens, ils parlent de toi parce que ils ressentent l'amour que tu as pour ton métier. Donc, c'est comme ça que ça se passait.
Le tissu associatif espagnol, est-ce qu'il est construit comme en France ? Est-ce que c'est assez facile, entre guillemets, de monter une association et de faire perdurer un peu sa passion et surtout de pouvoir en vivre ? Ou est-ce que c'est très différent ?
C'est ultra différent. C'est vraiment, vraiment très différent. On va dire qu'il n'y a pas des entités officielles comme chez nous. Tu vois, là, les entités officielles associatives sont... Voilà, c'est vraiment... Il y a des lois, il y a de règles sur lesquelles on doit agir. Là-bas, c'est complètement différent. Et après, les profs que je connais, ils ne passent pas forcément par ce système associatif, même si des fois, ils essayent de le faire. En fait, par exemple, il n'y a pas déjà les adhésions à l'année. Est-ce qu'ils ne prévoient pas pour les danseurs ou les personnes qui gestionnent, qui gèrent, on va dire, une association, une sécurité de l'avenir, enfin à plus long terme. Donc c'est plutôt au jour le jour, même si c'est, y a, ça existe les petits cadres associatifs, mais pas de la même façon qu'ici. Donc nous on parlait beaucoup avec des potes, bah ils devaient demander des quantités d'argent, mais journalières, hebdomadaires, tu vois. Et ce qui leur permet pas d'avoir une visualisation, on dit, de ce qu'on peut avoir, nous, de l'année. Et ce qui nous permet, nous aussi, pouvoir vachement de s'organiser. C'est pour ça aussi qu'il y a tous ces stéréotypes par rapport à la France, tu sais, ou à l'Espagne. T'es à l'heure chilienne, t'es à l'heure espagnole ou t'es à l'heure latino. Parce que c'est vrai qu'ici, en France, il y a un cadre qui existe et qui, effectivement, c'est plus bureaucratique. Mais en même temps, ça nous permet de nous positionner avec plus de sécurité. Alors que... En Espagne, en Amérique du Sud, le cadre, il est effectivement plus libre, mais en même temps, tu n'as pas de sécurité et tu n'arrives pas trop à te positionner sur quelque chose de stable à long terme.
Alors en 2015, justement, il y a la création de l'association Cubanizate, comme on a dit, ce qui me permet d'embrayer sur la présentation donc, de Lou, qui a un rôle très important dans cette association. Donc Lou, tu vas pouvoir te présenter un petit peu à travers le rôle que tu possèdes au sein de Cubanizate et la rencontre avec Vanet.
Alors du coup, actuellement, je suis la présidente de Cubanizate. Je suis d'origine, enfin, je suis originaire de Belle-Île-en-Mer et grâce à une connaissance commune, j'ai entendu parler de cette association-là. Ça faisait déjà plusieurs années que je voulais faire des cours de salsa et donc je suis arrivée pour un cours d'essai du coup à Cubanizate. J'ai rencontré du coup Vanessa à ce moment-là et je ne suis plus repartie de l'association. J'ai commencé du coup en 2017, fin de l'année du coup, ça devait être au mois de juin 2018, j'ai intégré l'association en tant que secrétaire du coup. Et du coup, l'année dernière, je suis passée de secrétaire donc à présidente de l'association.
Alors Cubanizate, est-ce que vous pouvez nous définir ce que propose Cubanizate depuis plusieurs années, à la semaine, à travers les événements, les soirées, les créneaux, les styles de danse proposés ?
Donc Cubanizate, déjà, ça veut dire « deviens cubain » ou « cubanise-toi », si on veut. Parce que on propose principalement des cours de cubains, afro-cubains. C'est moins spécificité. Et du coup, c'est ce qu'on a envie de proposer à Rennes. Parce qu'aujourd'hui, à Rennes, il y a beaucoup des associations dédiées aux trois styles de danse, au large. Salsa, bachata, kizomba. Et nous, on voulait vraiment faire les spécificités, être cubain, 100%. du coup, on propose des cours de lundi à jeudi. Bah, chaque année, il y a un peu des modifications, mais grosso modo, on entretient à peu près les mêmes plannings. On propose des cours de salsa. On a intégré aussi les cours de bachata, notamment avec notre super prof Jonathan, qui est un super pote aussi de l'association et de moi-même. On donne des cours de reggaeton, de son, de rumba, de lifestyle, plein de cours. Et aussi, on propose des soirées mensuelles, histoire que les gens ils aient vraiment un espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir avancer de façon plus... livre plus détendu, parce que le cadre d'un cours c'est toujours voilà un cadre imposé avec une heure où t'écoutes les consignes, t'écoutes le cours, tu prends de l'information, des fois c'est beaucoup, et puis la soirée où en fait voilà on s'élage dans les cadres d'un bar, un restaurant, on boit des coups, on retrouve les amis, et notre association s'y caractérise justement pour ce tissu associative large d'amitié, parce que c'est pas que des cours en fait. En dehors de l'activité de cours, on se voit énormément, on fait beaucoup de voyages ensemble, on a organisé plein de choses. D'ailleurs, le côté bénévole, il est géré par notre super amie Sylvie qui fait un travail magnifique. Elle est tellement sociable que en fait, c'est très facile de ingrainer des bénévoles. Et nous, dans notre association, le but c'est vraiment de ne pas être seulement un lieu de consommation, enfin au contraire, ne pas être un lieu de consommation. On a vraiment cette empreinte qui vient d'Amérique du Sud de par moi, où en fait on s'est dit que la danse, elle devrait être accessible à tous, et à partir de la danse, la joie, le partage, la solidarité et plein d'autres valeurs. Donc on partage vraiment beaucoup beaucoup des valeurs que on voit peut-être chez nous plus qu'ailleurs, ou davantage, parce qu'on y tient, vraiment. C'est pas que les cours, et c'est super important que les gens ils le voient dès le début.
Justement, l'association Cubanisate, c'est aussi des interventions dans la société aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos diverses interventions au-delà des cours en salle?
Alors, on a fait plein des choses. Mais notamment une activité qui nous tient à cœur, c'est des choses que on n'en parle même pas publiquement. C'est vraiment quelque chose à nous. On est en contact et en partenariat avec une maison de retraite. Et en fait, c'est né à la base parce que je suis chilienne, je suis toute seule ici. Tous les ans, j'essaye d'aller au Chili. Et il y avait une année où j'ai pas pu y aller. Et j'étais super découragée, super dégoûtée. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il doit y avoir d'autres personnes qui se sentent plus dans ce découragement, dans cette solitude et tout ça. Ça peut être qui? Et on a pensé au papy, quoi. Au papy, on a dit, les papys du quartier. À l'époque, c'était avec Romain, l'ancien président. Et je communique l'idée. Il me dit, pourquoi pas? Je lui dis, moi, j'ai envie d'aller fêter Réveillon avec eux. Et donc c'était trop marrant parce qu'on a appelé, et moi dans mon idée d'esprit c'était on y va, on débarque, je fais la cuisine, je fais les empanadas, c'est une nourriture chilienne, j'amène la champagne, on pète la champagne et tout. Et la personne à qui on a contacté, on m'a dit non, calmos, ils se couchent hyper tôt, il n'y aura pas de minuit chez eux. Et en fait, voilà, mais c'était ça, c'était venu à 15h, et ils m'ont dit déjà, mais ça n'arrive jamais qu'il y ait quelqu'un qui ait votre démarche. Et c'est effectivement beaucoup de papis et des mamies qui sont tout seuls à Noël, parce que les familles sont obligées de passer déjà Noël avec leur famille actuelle, quoi. Tu vois, il y a des petits enfants dans les familles et tout ça, et souvent ils oublient et ils viennent les voir avant ou après. Mais pendant ces dates là Noël et Réveillon, souvent il y a beaucoup de papis et mamies qui se retrouvent tout seuls, et ils nous disaient déjà c'est chouette votre initiative. Laissez-nous gérer le goûter. On va faire un goûter, en fait, c'est tôt et tout ça. Et on ne pétera pas de la champagne à minuit. Ils ne pourront pas manger des empanadas parce qu'ils ont un régime alimentaire à respecter. Mais moi, je me voyais bien à apporter tout ça. Et ils ont trouvé ça trop chouette de notre part. Et du coup, on est resté en contact tellement qu'après, ils nous ont proposé aussi une salle au cas où on avait soin, nous, pour se reproduire, pour s'entraîner et tout ça. Et puis, depuis, on est en contact avec eux, on essaie de leur amener un petit moment juste de partage. Donc en fait, cette année où on avait fait le réveillon, j'étais toute seule à l'initiative. Après, c'était Romain, après c'était son fils. Je dis, écoute, au cas où, je vais envoyer un mail à l'association, ça se trouve, on ne sait pas, il y a d'autres personnes qui sont tout seules pour ces dates-là. Et on s'est dit, on ne croit pas aller trois personnes. On a eu 25 personnes et on était très émus de ce qui s'est passé à ce réveillon, parce que tu te rends compte que les gens d'une association aussi, ce sont des gens dans une association et dans une activité de loisir, parce que aussi peut-être ils sont dans l'isolement. Ils aussi, des fois, ils veulent retrouver une activité pour avoir le contact, pour avoir un lien avec d'autres personnes. Et aussi, on rend heureux d'autres personnes qui sont encore dans l'isolement plus profond que le nôtre, tu vois. Et à cette occasion, j'avais été très émue d'avoir mes élèves venir en nombre. On a fait un dress code année 20 et depuis, on le respecte. On fait toujours le dress code année 20 parce que ça leur réveille. C'est hallucinant, mais en fait, rien que de venir habiller comme ça, ça réveille énormément d'émotions chez eux. Et réveiller ces émotions, c'est aussi leur faire pratiquer un petit peu leur mémoire, et ça se réveille en eux une âme qu'ils ont un petit peu éteinte. Et donc c'est pour ça que c'est très émouvant, et c'est des choses qu'on raconte pas, qu'on fait pas la publicité, on fait pas des photos, c'est à nous, c'est notre moment. Et puis bon, ça j'ai m'élargi un petit peu pour la développer parce qu'on y tient. Mais après on fait plein d'activités avec des enfants, avec des ados, que ça soit moi toute seule ou que ça soit l'association, on a déjà intervenu dans plein d'occasions et on a aussi intervenu sur des moments hyper importants de festivals, des jazz par exemple, où on nous intègre et on a eu l'occasion de participer avec le groupe Compay Segundo, de faire la première partie et pour nous c'était vraiment un moment, mais enfin, depuis que je suis toute petite, j'écoute cette musique et faire la première partie de ce groupe pour moi aussi c'était un moment marquant, émouvant. Et pour l'association aussi, on était hyper nombreux. Et après, je pourrais te nommer plein de choses, mais on va rester là parce que voilà, je ne veux pas m'élargir. Déjà, c'est des moments, ces deux moments-là, ce sont des moments les plus marquants de l'association.
Alors, on va faire une petite dédicace au groupe Charanga Santa Lucia, que nous avons interviewé il y a quelques semaines, au cours d'une belle soirée. Est-ce que, peut-être, sur cet exemple, vous pouvez nous parler des échanges interassociatifs? Peut-être notamment avec leur rencontre et comment on arrive à organiser un événement et qu'est-ce que c'est qu'une soirée cubanisatée featuring Charanga. Voilà, comment ça se passe et voilà, comment ça se déroule quoi.
Alors, moi, ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que je suis aussi une artiste polyvalente. Je ne fais pas que la salsa en dehors et je ne l'ai pas du tout mentionné, c'est vrai. J'ai aussi fait de la musique. Et par la musique, je connais beaucoup de musiciens, mais aussi par l'association aujourd'hui. Donc on était en contact avec Jean-Michel depuis longtemps d'ailleurs. Il y a une petite anecdote, parce qu'avec Jean-Michel, le chanteur de la charanga, j'ai fait ma première initiation de salsa, parce que je n'avais pas de partenaire ici en France. Et ça, c'est vrai que je n'ai pas raconté à beaucoup de personnes. Et on apparaît dans le journal de Pont-TV sur une photo, alors que notre animation, je ne me rappelle même pas où c'était. Mais à l'époque, je n'avais pas de partenaire. Et lui, il connaît très bien la culture cubaine. Et je me suis dit, il danse quand même, il comprend la musique. Donc, allez, on l'a fait ensemble. On a préparé un truc ensemble et ça l'a fait. Et depuis, on est resté en contact, mais sans pour autant faire ou organiser quelque chose. Et sur ces périodes difficiles, on est là à soutenir. D'ailleurs, j'étais à la tête de beaucoup d'organisations pendant le confinement. Et du coup, j'intègre l'association, j'intègre les artistes de la danse, les artistes de la performance, les artistes de la musique, les artistes dans toutes ces activités-là, parce que c'est soutenir... Sur ces moments-là, c'est aussi créer un corps de projet, c'est aussi s'entretenir, nous, les artistes ou les professeurs, et d'entretenir vivant tout ce qu'on fait, parce qu'on a vécu quand même depuis 2 ans des moments assez difficiles. Et donc, on s'est dit avec Jean-Michel de la Charanga, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. On est parti de suite à organiser quelque chose. Nous, dans nos activités de Cubanisaté, c'est vrai qu'on invite toujours un intervenant, que ce soit local, régional, départemental ou international. Et là, en fait, c'était bien de plutôt lier la musique, parce que c'est bien aussi de revendiquer le live. C'est aussi quelque chose qui s'est vachement perdu pendant, ou qui a suivi un peu les conséquences, on va dire, de ces confinements, le live, parce qu'on a vachement priorisé les enregistrements, les trucs online, de payer les concerts en internet, tout ça. Et donc, c'est notre façon de s'auto-soutenir. On sait tous la galère que ça a été de vivre les confinements en tant qu'artiste, prof, artiste de façon générale. Et du coup, voilà, on voulait faire une soirée et on s'est dit que de toute façon, unir les forces de par leur association et la nôtre, ça allait donner un truc super. Et on a loué à chaque fois, je le dis mal, c'est le Parquet de Val, merci Lou. Le Parquet de Val, qui est un endroit spécifiquement aujourd'hui dédié justement à la danse. Et quoi de mieux que de lier la danse avec le live. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet événement et que sur lequel je n'ai pas pu assister parce que j'ai eu le Covid pile. Voilà, j'ai eu pile le Covid, mais tout le monde m'a dit que c'était super parce que ce qu'on avait organisé, ça avait été super de toute façon. Et ce que les gens ils ont vécu, ça me suffit. Voilà.
Alors on peut peut-être parler un petit peu des projets, Van et Lou, par rapport donc à cette soirée extraordinaire. à laquelle malheureusement tu n'as pas pu assister Vané, mais est-ce que dans les mois, les semaines qui viennent, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais comment se projette l'association dans les mois ou peut-être même les années qui viennent? Est-ce qu'il y a déjà des petits projets qui mûrissent, ou alors est-ce qu'on attend de voir, on avance pas à pas? C'est quoi un peu la philosophie de Cubanisaté dans les projections d'événements?
Alors nous, on a envie de continuer, on a envie de garder l'espoir, de se dire qu'on va pouvoir continuer à faire des soirées, continuer à faire des festivals. Donc on reste assez positif là-dessus. Après, c'est vrai que on est comme beaucoup dans l'incertitude de par la situation du coup actuelle. Qu'est-ce qu'on pourrait on a des soirées logiquement du coup des soirées mensuelles, donc on a envie de continuer ça régulièrement du coup. Avant ces soirées mensuelles, on organise aussi des stages donc pour nos adhérents et pour les personnes extérieures qui souhaitent du coup danser avec des danseurs du coup qu'on fait venir d'Espagne, d'autres endroits en France ou d'ailleurs, et des personnes avec lesquelles on n'aurait pas forcément l'occasion de danser, étant donné qu'ils sont pas forcément dans notre ville. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi, de pouvoir faire venir ces intervenants-là et faire découvrir aussi d'autres façons de d'apprendre la danse, parce que tout le monde n'a pas la même manière de communiquer à travers ça. On a eu l'occasion d'organiser un festival, donc peut-être un jour recommencer. C'est vrai que ça avait été un super moment du coup pour l'association de pouvoir faire venir du coup une troupe de Cuba qui ouais. donne des stages c'était vraiment chouette. Et voilà les projets qu'on a. Je ne sais pas si Vanessa, tu veux oui. On organise de temps en temps des voyages du coup avec les adhérents, donc pour partir. En Espagne pour se former, prendre des cours, passer un temps tous ensemble et puis danser, danser le jour, danser la nuit, danser toujours quoi.
Alors peut-être une question maintenant un peu plus spécifique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de créneaux durant la semaine. Avoir beaucoup de créneaux, c'est avoir de la condition physique, c'est savoir avoir un mode de vie pour le coup. Alors Vané, depuis que tu enseignes comme ça, beaucoup de cours par semaine, c'est du sport de haut niveau. Hein. Comment tu arrives à te maintenir en forme, à garder cette niaque, cette patate, et voilà. Quel est ton secret qui te permet de garder cette énergie et d'avoir au niveau corporel, d'avoir autant d'énergie et de jamais... Il y a peut-être des petits coups de fatigue parfois, mais comment tu fais pour te préparer physiquement?
Alors c'est vrai que c'est assez intense. Et là, ça l'est moins par rapport à l'activité que j'avais avant Covid. Comme j'ai dit tout à l'heure, je fais les cours de lundi à jeudi, mais il y avait aussi à partir des vendredis jusqu'à dimanche les festivals, tout ça. C'est vrai qu'il faut tenir le coup. Et c'est vrai que les gens, ils considèrent que je me caractérise par avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Et cette énergie, je pense que c'est une force, peut-être. C'est pas... Il n'y a pas une recette. Après, je peux dire tout ce que je fais, mais il n'y a pas une recette. Je pense que c'est une force. C'est le fait aussi de s'accrocher à quelque chose que tu aimes. Tu vois, moi, la danse, c'est ma passion. Et c'est la seule chose que j'ai pour l'instant. Et, enfin, j'ai ma famille, évidemment. On s'aime énormément, mais je les ai loin. Donc, je m'accroche à ce que j'ai là, en temps présent. Ma famille, je les vois au moins une fois par an. J'ai mes ressources et tout. Ça me fait énormément du bien. Mais c'est la danse. En fait, c'est un donnant-donnant. Et c'est ça qui est beau. Les gens, ils me disent, mais t'es tellement généreuse. Tu donnes beaucoup, beaucoup. Mais c'est aussi les élèves qui me donnent des choses. Et des fois, je compare beaucoup la danse. Enfin, il y a la danse en tant que danseuse. Il y a la danse en tant qu'enseignante. Et la transmission, c'est un métier très beau parce que c'est comme être maman, en fait. Je ne suis pas maman, hein, mais je dis ça parce que, en fait, tu crées quelque chose et tu vois l'évolution et tu souffres et tu as des joies et tu avances avec. Et tu vois tes élèves avancer et tu vois leur sourire dans leur visage et tu te dis, putain, ouais, pardon, j'ai dit ça, mais c'est parce que ça vient du cœur et que tu te dis... En fait, je suis venue vraiment pour ça, à cette planète, à cette terre. Et ça me plaît, en fait. Les gens, ils voient l'amour que je porte. Après, en dehors, bah, les gens, ils savent que je suis une folle du maté. Je consomme beaucoup du maté. je suis tout le temps avec ma petite tasse de maté, ma paille. Je prends des photos de partout où je voyage avec mon maté. Tout le monde me dit, mais c'est quoi ton truc magique, là? Et c'est vrai que ça me porte beaucoup, beaucoup d'énergie. Je dois forcément faire des étirements, avoir une hygiène de vie. Mon hygiène de vie, c'est, enfin, vraiment, je respecte énormément la nourriture, comment je me nourris, tout ça. Je vais pas faire la morale. Les personnes qui écoutent ça prennent ça comme ils veulent, mais c'est vrai que l'alimentation fait partie hyper importante de ce qu'on représente, de comment on nous voit, tout ça. Et donc moi, ouais, j'essaie de manger sain. Et j'essaie de faire au mieux par rapport à ça. Je suis une comment dire, une fan de ce qui est local, de ce qui est bio. Je viens d'une culture assez campagnarde aussi. Enfin, là, on revient un peu dans mon histoire. Mais du coup, toutes ces choses-là étaient basiques pour moi, les choses de la campagne, les choses naturelles. Même les remèdes, je ne consomme aucun médicament, jamais de ma vie. Et du coup, ce qui me permet peut-être de rester un peu et avec l'énergie et avec le physique, parce qu'une chose c'est le mental et l'autre chose c'est quand même le physique que des fois n'accompagne pas. Et après, je suis jamais malade, mais quand je suis malade, c'est vraiment les blessures du corps à cause de l'usage de voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même une activité, c'est presque du haut niveau parce que c'est tous les jours. Et j'espère revenir à ce haut niveau parce qu'on va dire que depuis 2 ans, quand même, ça s'est un peu arrêté. Ça me manque énormément de pouvoir partager avec mes collègues parce que les compagnies des danses, ça s'est un peu arrêté. C'est le truc qui est aujourd'hui à stand-by. Pour l'instant, j'ai fait que les cours de danse et il me manque ce côté créatif que je pouvais avoir et cet échange avec mes pairs, tu vois, que maintenant je donne, effectivement mes élèves ils me redonnent de l'énergie parce que je le sens, mais il me manque ces côtés créatifs et à la paire avec mes collègues, quoi, et qui s'est un peu arrêté. J'ai hâte de retourner. Normalement les premières dates ils arrivent là en février, alors croisons des doigts pour que tout ça puisse revenir.
Justement, est-ce que tu aurais alors d'aujourd'hui un peu un rêve, justement, de pouvoir partager une collaboration avec un artiste en particulier? Est-ce que tu te vois continuer sur la salsa cubaine? Est-ce que tu te vois t'ouvrir à d'autres styles de danse?
Alors, je l'ai un petit peu dit sommairement, peut-être, mais je suis super polyvalente. Mes études étaient à la base en danse folklorique, après je complétais et je suis urbaine aussi parce que je me suis influencée des plein de styles différents. Et donc mon style aujourd'hui, on va dire que c'est vraiment le résultat de toutes ces influences. Donc je fais beaucoup de choses, je fais même de la musique, j'ai à un moment donné fait un groupe de musique cumbia. Et donc là pour l'instant c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des périodes assez incertaines, mais dans moi ça gerbe encore l'envie de faire plein de choses. Il n'y a pas trop longtemps je suis revenue un peu à mes origines et j'ai créé une performance qui était liée aux origines de la vie, du mouvement, qui a été à voir plutôt avec la danse et les influences andines. C'est les Andes au Chili et ça m'avait beaucoup fait du bien. Je l'avais lié avec la manque ou l'absence de mouvement par rapport au Covid, parce que finalement la danse c'est une des formes artistiques la plus touchée pendant cette crise, puisque tu vois les concerts ils ont pu continuer de plein de formes différentes, mais la danse qui est le contact, ça n'a pas pu poursuivre. Donc j'ai créé un petit spectacle que j'aimerais. C'était une performance que j'aimerais que ça devienne vraiment un spectacle. Je l'ai un peu laissé en stand-by parce qu'on a arrêté avec la personne qu'on travaillait, mais je ne dis pas que je ne le reprenerai pas. En ce moment, il y a des amis cubains qui me contactent pour monter quelque chose d'un milieu hyper spécifique de la danse cubaine, de la culture cubaine, qui est une danse consacrée au somme à la base, qui s'appelle la Colombia. Et je suis toujours une des seules ou de rares femmes qui se présente à cette manifestation culturelle qui vient de la rumba. Et donc, il y a des danseurs et des musiciens qui m'ont proposé de travailler davantage dans ça, créer un spectacle. Aujourd'hui, tout est un peu en stand-by, mais tout est là. En fait, ça gère. On est en train de voir qu'est-ce qu'il y a. Et j'ai en train de reprendre, les répètes pour notre spectacle qui s'appelle le Bal du Tout Monde, où justement, moi, je fais cette partie intégrante du projet parce que je suis le résultat de plein d'influences. Et le Bal du Tout Monde représente aussi la danse à part entière, le voyage de la danse, les traces que la danse laisse d'une population à une autre à travers la danse, à travers les voyages, à travers cette expression magnifique qui est le contact, qui est vraiment l'expression du corps, quoi. Donc voilà, c'est un peu les projets aujourd'hui.
On va peut-être voyager un petit peu outre-Atlantique. On va prendre l'avion pour repartir un peu à tes origines chiliennes. Quel a été ton ressenti par rapport aux différences d'ambiance entre le Chili et la France, par rapport à la danse, par rapport à la musique? Est-ce que pour toi ça a été une vraie rupture d'arriver en France, ou au contraire, est-ce que tu as retrouvé des similitudes?
Alors, non, c'est que c'est vraiment très différent. Ouais, la danse et l'art en général, c'est vraiment un moyen d'expression au Chili de presque toute la population. C'est comme en Afrique, c'est vraiment des manifestations qui se transmettent de génération en génération. Nous, on est baignés dedans depuis tout petit. Et je raconte souvent une anecdote que pour moi est jolie, enfin est touchante en tout cas. C'est que au Chili, en fait, la danse, ça fait pas partie de quelque chose qu'on va apprendre de façon académique, ça fait partie de quelque chose qui est à apprendre déjà à la maison. La musique, elle est présente tout le temps, et du coup, les fêtes, la danse, les gens, ils sont tout le temps à travers la danse en partage. Et tout le monde est inclus dans cette démarche, que ce soit les vieux, mais avec les tout petits, en même temps, c'est intergénérationnel, c'est une transmission hyper belle qui s'est fait tout le temps. Et moi, j'ai le souvenir depuis toujours chez moi d'avoir assisté à beaucoup de fêtes. Toutes les fêtes étaient marquées par la danse. Et j'avais ce souvenir où les petits, on jouait les jeux d'enfants, le cache-cache ou plein d'autres choses. Mais en fait, pour traverser la salle, on avait toujours les grosses popotins de nos parents qui se dandinaient d'un endroit à l'autre. Et en fait, à cette époque-là, on ne le voyait pas comme quelque chose de... Pour nous, c'était un obstacle, tu vois, on voulait se cacher, on voulait jouer à nos jeux. Et il y avait les popotins des parents, des grands, des adultes qui se dandinaient de partout dans la salle. Et c'est quelque chose finalement qui nous reste, qui marque. Par la suite, on fait pareil, la musique, elle ne peut pas manquer chez nous. Quand je suis arrivée en France, du coup, l'absence de musique, même dans les bars, des fois, elle est trop basse. Où les gens étaient... Enfin, moi, on m'a fait cette remarque depuis que je suis arrivée... Parle plus bas, des choses comme ça qui font partie itinérante de ma culture. Moi, je parle forte, je parle de façon ambiancée, je parle de façon animée. C'est tout de suite une différence, effectivement. Et puis après, aussi, ce qui m'a choquée, c'était quand j'ai donné les cours ou quand je faisais mes interventions artistiques, j'avais l'impression, en voyant les gens, qu'il s'est passé que dalle. Mais les gens, ils n'ont pas aimé. Et après, ils m'écrivaient, plein de personnes m'écrivaient, me disaient, mais c'était exceptionnel. J'ai ressenti mais plein de choses. Tu m'as fait me sentir, nanana. J'avais les poils, nanana. Et je disais, mais alors, ça se voit pas chez les Français. Et c'est vrai que voilà, c'est une culture qui est plus carrée, qui exprime un peu moins que nous. Nous, on est le contact facile, le tactile. On se touche énormément. Les petits, ils dansent depuis tout petit, pas pour autant ça porte des connotations sexuelles ou des connotations ah, il grandit trop vite, ce petit ou cette petite. Nous, c'est normal, c'est naturel. On fait comme on fait, ils ont fait nos parents. La musique, la danse, ça fait partie de notre culture itinérante. Et on grandit là-dedans et on la transmet. Et c'est un moyen de partage essentiel dans notre vie. Donc oui, effectivement, c'était très, très différent.
Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de comment tu as grandi un peu ta jeunesse au Chili ? Tes parents étaient imbibés aussi de cette culture chilienne, musicale, dansante ?
Alors, ma famille, du côté de ma mère, c'est une famille très, très populaire. D'ailleurs, une famille populaire et aussi très modeste. Donc, ils viennent de petits bleds, de vraiment tout petits bleds, où en fait, au sud du Chili. Au sud du Chili, ça s'appelle Lota, l'endroit où je suis née, ma famille est née. Et toute la famille fait de la musique ou fait de la danse. Toute la famille a fait quelque chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, je suis née dans tout ça. Ma mère est chantée, toutes mes tantes chantaient, toute ma famille dansait. Mon oncle, le plus jeune, avec qui on s'entend hyper bien parce qu'on est nés le même jour, lui, c'était les stars de la famille et moi, je le regardais, je voulais être comme lui. Et aujourd'hui, je vois, et c'est marrant parce qu'il reste quand même quelqu'un de très connu, mais c'est dans des petits bleds, mais il est resté toujours hyper connu là-bas. Et moi, je continue à faire la même chose, mais après, à plus grande échelle, quoi. Je suis sortie de mon pays et je me suis fait une réputation après en dehors de mon pays. Et alors, c'est moi maintenant qui est les stars de la famille pour eux, même dans les études. J'étais la première à faire des études et après, mes cousins, ils ont voulu aussi suivre l'exemple. Et des côtés de mon père, ils sont aussi tous artistes ou ont touché à ça, pas forcément vécu de l'art, mais en tout cas immergés dans tout ça. Ils peint, ils chante, ils joue de la musique. Donc je pouvais pas faire autre chose que ça. Et je me rappelle notre petite anecdote. Quand j'étais petite, je viens d'une famille très populaire. Au Chili, les familles populaires, on va dire qu'ils se nourrissent pas comme il faut. D'ailleurs, toute ma famille, ils sont tous balèzes, quoi. Et pendant toute ma vie, c'est pour ça que je m'inquiète vachement de l'alimentation aussi, parce que je voudrais pas arriver à là, non pas juste pour le fait d'être gros, mais pour le fait d'être malade. Tu vois, ils ont plein de maladies, on le sait, c'est hérédite, enfin, c'est un héritage chez nous. Et du coup, je me rappelle que je voulais être danseuse des classiques, parce que je voyais ces stéréotypes de, ils ressemblent pas du tout aux gens de notre famille, ils sont hyper minces, moi je vais faire du classique. Et évidemment, dans ma famille, il n'y avait pas les moyens pour le faire. Et du coup, je m'entraînais toute seule chez moi, en regardant des vidéos, la télé, tout ça. Et sur le poignet de ma porte, je mettais ma jambe et c'est là que j'ai commencé à développer une flexibilité, une souplesse à part de ce qu'on pouvait voir à l'école. Donc à l'école, ils ont commencé à voir ça et je me suis fait soutenir par mes profs. Ils ont vu en moi que voilà, j'étais hyper motivée par la danse et ils ont commencé à me mettre dans des activités ou à m'offrir de bourses pour aller et avoir l'accès à des activités qui me sortent de cette, on va dire, héritage de pauvreté sur laquelle j'étais. Et c'est grâce à mes profs, en fait, que je suis allée à la découverte de plein des styles de danse ou des activités. Et petit à petit, on m'a découvert d'ailleurs, par deux profs, j'ai eu la chance de faire de la natation synchronisée, qui est une activité que j'ai adorée parce que ça mélange les sports et c'est là que je me suis faite, tu vois, une discipline de comment être, de comment me nourrir, ouais, de haut niveau. Je fais ça depuis toute petite à jusqu'à ma préadolescence. Et voilà, t'arrives à voir de par ça une rigorosité, une discipline, une hygiène de vie et tout ça. Parce que je me rappelle qu'on nous disait tu peux pas manger lourd parce que pour les moments de compétence, je sais pas comment on dit ça. Compétition, merci. Les moments de compétition, et ben voilà, il fallait pas de lourd. Donc c'est là que j'ai appris toutes ces choses-là et surtout j'ai appris à combiner les sports et la danse. C'est magnifique cet espoir qui mélange les deux. Et à partir de là, moi, je commençais verser vers l'artistique. Ouais, mais c'est grâce aux profs et grâce à peut-être cette petite initiative qu'il y avait dans moi, et qui me faisait faire des choses naïvement qui ont donné des résultats, tu vois. Le fait de faire mes étirements dans une porte, ça m'a fait avoir de la souplesse. Et les profs, ils l'ont vu et petit à petit, ils m'ont invité et ils m'ont fait participer à plein des événements qui m'ont donné la possibilité, la chance de faire mon chemin que j'ai aujourd'hui, on va dire.
Alors, c'est intéressant, on va rebondir sur l'aspect un peu compétitif dont tu parles à l'instant. C'est vrai qu'on dit aujourd'hui, il y a parfois peut-être des représentations véhiculées en Occident où on dit qu'en Europe notamment, la danse est vachement compétitivisée, notamment dans les danses latino, avec pas mal de concours, d'oppositions. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cette danse qui avait peut-être pas il y a encore un demi-siècle, où aujourd'hui elle s'est vachement démocratisée? Et quel regard tu portes sur cet aspect un peu compétitif, d'opposition? Est-ce que pour toi on est sur une rupture traditionnelle, culturelle d'Amérique latine, ou est-ce qu'au contraire c'est un cheminement logique?
Alors déjà, quand je suis arrivée en France, j'ai trouvé justement que ici on défendait au contraire, tu vois, tous les aspects qui ne visent pas à la compétition. Parce qu'on parlait de... on va plutôt... valoriser l'action en soi que le résultat. Et c'est quelque chose que j'ai appris ici et que j'ai trouvé super chouette. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée ici, et depuis mon histoire aussi, parce que, comme je disais, je viens d'une famille humble, modeste. En fait, je devais ressortir parmi les autres pour pouvoir avoir accès. Quand j'ai compris que c'est comme ça que les gens ils m'aimaient et que ça pouvait me donner accès à plein de choses, bah, j'étais hyper compétitive, moi. J'étais mais la plus compétitive au monde. Je suis arrivée, je voulais gagner à tout le monde. Et ici, ça s'est un peu calmé. Alors, par rapport à ce que c'est que la danse latine aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, elle ne faisait même pas partie, aujourd'hui, elle fait même partie des Jeux olympiques. Ça rentre. Enfin, c'est quelque chose qui rentre dans les compétitions aujourd'hui. Il y a des classifications et tout ça. Et je suis restée plutôt dans l'ambiance... Ok, c'est vrai que j'étais compétitive. Ok, c'est vrai que ça te fait avancer. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Et je vais soin tout simplement de continuer à me nourrir moi en tant que danseuse. Et ça passe pas par la compétition. Et je vois qu'effectivement, les danses latines ont rentré dans une ère de compétition, mais j'en fais pas partie du tout. Des fois, ça me démange aussi, mais pas avec la même envie que j'aurais pu avoir il y a quelques années. D'ailleurs, j'ai complètement perdu cet aspect compétitif. Je ne l'ai plus du tout. Je ne l'ai plus du tout parce que, avec l'association aussi, avec la transmission, tu apprends complètement le contraire. C'est vraiment le partage et la générosité. Chose que dans la compétition, il n'y en a pas. C'est plus mesquin. Justement, tu ne vas pas donner tes connaissances aux autres. Alors que moi, je suis devenue tout le contraire. Je suis dans une démarche, mais complètement généreuse. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée en France et que je suis tombée sur les premières associations, je me rappelle de la première. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas les mettre dans la merde, les foutre de la merde. Mais il me disait, en fait, il ne faut pas que tu donnes trop d'informations. Parce que comme ça, les gens, ils peuvent se réinscrire. Et ce n'était pas du tout mon optique de vie. Moi, je suis généreuse... parce que j'ai envie de l'être, parce que ça me fait plaisir, comme je disais aussi à un autre moment, de voir les gens évoluer. Et ça fait d'autant plus plaisir quand tu vois des gens arriver et qui connaissent que dalle à la danse. Parce que c'est vrai qu'ici, il faut leur apprendre qu'il y a des genoux, les articulations et tout ça, ça s'utilise. Les hanches, ça existe. Le déhanché, ça existe. Et puis, voilà, à part ça, que ça fait rigoler, tout ça, parce que ça, c'est des blagues que je lance en cours. Après, ça fait un plaisir immense, immense, je vous jure, immense, de voir tous ces gens évoluer, tous ces élèves qui, après, en plus, deviennent vraiment des proches pour moi. Pour moi, ça peut pas être isolé, différent. Enfin, en fait, ça devient des gens hyper importants pour moi. Et donc, ça m'a fait plaisir. Donc, au contraire, je suis... d'un coin de l'œil ce qui se passe avec les compétitions, mais je ne suis pas dedans, malgré un intérêt, une petite piqûre qui est toujours en moi, mais pas de la même façon et pas dans la même optique que j'aurais pu avoir auparavant.
On approche de la fin de cette interview, encore deux petites questions. Quel regard tu portes sur la musique chilienne? Est-ce que tu suis des artistes en ce moment au Chili, est-ce que tu aurais des artistes à nous conseiller pour nos auditrices, nos auditeurs, pour s'intéresser, s'ouvrir à cette culture musicale chilienne?
Alors, j'ai toujours aimé beaucoup la musique chilienne. Et en ce moment, je ne vais pas vous dire des artistes que j'écoute parce que ça ne serait pas la vérité. J'écoute pas en ce moment du tout des Chiliens. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais vachement influencée par la force d'une artiste chilienne qui s'appelle Violeta Parra et qui est hyper, hyper connue en Amérique du Sud en entier. Elle a été, une avant-gardiste à son époque. C'était la première femme à avoir exposé au Louvre, alors qu'à l'époque, personne ne parlait français, parce que c'était une artiste aussi hyper polyvalente. En fait, l'art, pour elle, c'est aussi son expression qui permet de sortir peut-être tout, et les mauvaises et les bonnes expériences qu'elle a vécues. Et je m'identifie vachement à cette artiste, parce que c'est un peu mon cas. Et je suis polyvalente aussi, grâce et à cause de ça, de mes expériences. Donc Violeta Parra, c'était pour moi une influence hyper hyper importante dans ma vie. Et en ces moments, est-ce que j'écoute beaucoup de groupes que je passe en cours, mais bon, ça sert à rien de les nommer parce qu'il y en a trop, Michael Blanco, Elito Rivé, Habana de Primera. Et en ces moments, il y a un chanteur que j'écoute, je me permets de mettre comme ça. Je ne me rappelle pas exactement de son nom, mais je vais le dire direct. Parce que, en fait, sa musique me fait peut-être avoir encore les envies d'écrire, de la création plus en douceur, comme ça l'est aujourd'hui dans ma vie. Donc, il s'appelle Sen Senra. C'est S-E-N-S-E-N-R-A. Et sinon, Nati Peluso, c'est les artistes du moment pour moi. Et les deux, ils sont complètement différentes. Mais du coup, c'est ce qui m'influencie aujourd'hui, à part les Chiliens.
Okay. Est-ce qu'il y aurait un son sur lequel tu souhaiterais qu'on monte, qu'on fasse ce montage, un son en particulier, qui te représente peut-être?
Ah, c'est marrant, mais j'en ai trop. Et à chaque fois qu'on me demande, c'est comme quand tu poses la question, si t'étais un fruit, tu serais quoi? Et tu sais pas trop quoi dire. Mais en fait, oui, je vais dire un morceau qui me représente, c'est pas qu'il me représente pas, mais c'est par la joie. Donc déjà, c'est l'artiste Nati Peluso. Et si on pouvait mettre soit Mafiosa ou Ateo, c'est des morceaux que j'ai utilisés récemment et qui me donnent la patate. Et que je trouve que me font créer, me donnent envie de danser. Voilà.
Dernière question pour finir cette interview. Voilà. Comment tu te vois dans 20 ou 30 ans, d'un point de vue artistique ou personnel? Est-ce que tu te vois continuer à donner des cours dans les prochaines années, ou est-ce que tu envisages autre chose pour ton avenir professionnel, personnel?
Alors justement, j'aimerais pouvoir dire dans 20, 23 ans, 25 ans que j'ai pu reprendre ma vie artistique, parce que c'est un peu ce qui a été délaissé en ces moments. Je suis à part entière dans l'association Kouvanisate, qui est le projet comme un bébé et tout ça, mais j'aimerais aussi pouvoir développer davantage et reprendre davantage le côté artistique. Et c'est vrai qu'avec les préoccupations de tout ce qu'il y a dans le monde associatif, des fois on se voit embarquer dans tout ça et on laisse des côtés, et surtout qu'aujourd'hui, on va pas nier, c'est un contexte difficile et on peut pas trop s'exprimer. Si on a les deux cartes, on peut pas trop s'exprimer dans la carte artistique. Donc dans 20-25 ans, je pourrais dire j'étais une artiste comblée, j'ai pu faire ceci, cela, mais par mon âge, on ne peut plus continuer, parce que dans la vie des artistes danseuses femmes, il y a quand même une date de péremption. Et essayer d'amener cette date au plus long possible, parce qu'il y a plein de formes autres d'amener la danse, non seulement par le physique, tu vois, par comment on se maintient, mais aussi par le génie, par l'idée, par la tête. Et d'un autre côté, côté associatif, peut-être... grâce à ces côtés associatifs, avoir gardé un peu tout cet esprit associatif, mais l'amener plutôt à une école, et avoir enfin une école Kouvanisate qui porte encore les valeurs qu'on porte à l'association, mais avec un vrai statut de colle, que ça soit quelque chose d'officiel. Voilà.
Merci beaucoup pour cette belle interview, Lou et Vanée, et à très bientôt sur les planches dansantes de Kubanisaté pour de belles énergies. À bientôt, au revoir.
Mafiosa.